Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine et ce matin un peu de réconfort et de douceur avec des pâtisseries classiques à réaliser à la maison, Saint-Honoré, Éclair, Paris-Brest, Opéra. Est-il vraiment possible de les réaliser chez soi? Nous vous raconterons également l'histoire de quelques classiques en compagnie de la journaliste et historienne de la gastronomie Nathalie Hellal et avec le célèbre pâtissier François Perret. Notre chef Grégory Cohen nous proposera une recette salée à réaliser ce week-end et le journaliste Julien Bisson partagera deux fictions qui font du bien. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh bien, puisqu'on parle des classiques de la pâtisserie, moi je m'arrête à la première partie de la phrase, c'est-à-dire les classiques. À quoi bon connaître ces classiques ?
Bonjour Guy Metodicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre camarade cette semaine ?
Écoutez, je laisse encore un peu planer le suspense. Disons que c'est quelqu'un qui fait énormément de pâtisserie, qui est obsédé par la pâtisserie, qui n'est pas obsédé, hélas, que par ça.
Ah, je crois savoir. C'est un peu moi d'ailleurs, votre personnage.
Eh bien, nous en parlons.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Bonjour Maya Mazorette, une chronique sexe gourmande de ce matin.
Exactement, et pour rester dans la légèreté, vu qu'on va prendre 4 kilos rien qu'en écoutant l'émission, je propose de voir ce que le sucre et le gras font à nos vies sexuelles.
N'hésitez pas à partager vos réactions sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du futur Père Joseph à Rueil-Malmaison en région parisienne, vous nous proposerez tout à l'heure une recette tout en légèreté.
Tout en légèreté, une recette qui nous vient d'Asie, du Japon plus précisément. Ça va être une recette végétarienne, des aubergines confites au miso.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du 1 Hebdo, à la une cette semaine.
Comment vaincre les inégalités? On ne parle pas des inégalités de temps de parole comme dans cette émission, bien sûr.
Petit avant-goût de vos deux fictions réconfortantes pour ce week-end.
Eh bien, de ce week-end, on va partir à la ferme, puisque ce sont deux fictions qui ont pour cadre une ferme. Vous allez voir que c'est des choses très différentes. Il ne va pas du tout se passer la même chose dans la basse-cour.
Bonjour Nathalie Hellal.
Bonjour Ali.
Journaliste gastronomique, vous collaborez notamment au Parisien Week-end, à Histoire Magazine, et vous publiez avec Sandrine Audegon un beau livre, un très beau livre, publié chez Hachette Cuisine, Le goût de Paris et de la région Île-de-France. Bonjour François Perret.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef pâtissier au Ritz, Paris, et vous êtes le héros de la série documentaire diffusée sur Netflix, The Chef in a Truck. The Chief in a Truck, on va prononcer le mieux que moi peut-être.
Non, je ne le prononcerai pas mieux que vous. Non, en anglais, ce n'est pas mon fort.
Ni le mien. Ni le mien.
C'est étonnant.
Et il existe une version livre de ce documentaire et c'est publié chez Flammarion.
Et un DVD qui est sorti aussi.
En cette période difficile, en ce mois de janvier qui peut être déprimant, j'ai l'impression que les pâtissiers peuvent être des thérapeutes avec toutes les douceurs que vous proposez sur ces fonctions réconfortantes de la pâtisserie. François Perret.
Je ne sais pas si le pâtissier est un thérapeute. En tout cas, je pense que ce qu'il produit peut effectivement apporter un petit peu de baume au cœur. Quoi. Oui, je pense qu'on a tous besoin, en tout cas moi j'en ai toujours besoin, de réconfort sucré. Voilà, je trouve que ça c'est quelque chose qui donne un petit peu de tonus. En tout cas, moi je pense à ça, ouais, j'y crois.
Nathalie Hellal, pendant les divers confinements, on a beaucoup pâtissé seul à deux ou en famille. Hein.
Oui, enfin moi, confinement ou pas, je crois que je pâtisse en permanence, sans culpabiliser ouais. D'ailleurs. Non, il faut jamais s'arrêter de faire ce genre de choses, c'est toujours un grand plaisir.
Grégory Cohen.
Bah, la pâtisserie, c'est l'entrée d'ailleurs du partage en famille. Je trouve les premiers gâteaux ou les premières choses qu'on va réaliser avec ses enfants, ça va être des gâteaux, ça va être du sucré, ça va être de la pâtisserie. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que à l'inverse, on dit que la pâtisserie est une science hyper exacte et hyper juste. Et pourtant, paradoxalement, quand on cuisine avec ses enfants et qu'on va faire un cake, eh ben on les laisse faire les peser et puis on va se tromper à 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes près. Puis c'est pas grave, le cake il est là et il nous donne toujours le sourire et un plaisir à consommer ensemble.
Tiens, sur le côté intimidant parfois, François Perret, de la pâtisserie qui est également une science exacte, c'est de la chimie, ça peut impressionner hein, le fait de se lancer dans un classique de la pâtisserie.
Moi, je pense qu'il faut pas que ça impressionne. Au contraire, il y a un cahier des charges, il y a une recette. Je dirais que normalement, si la recette est bien faite et bien expliquée, on a quand même 90% de chances d'arriver au bout, quoi. Si on suit toutes les petites astuces qui vont avec, bien sûr.
Ben c'est exactement ça. Et de plus en plus aujourd'hui, les chefs, ils sont dans leur rôle de transmission et de partage. Et de plus en plus, les livres. Aujourd'hui, les livres de recettes de pâtisserie sont des livres qui sont en fait des vraies bonnes recettes faisables, réalisables et où on se met à utiliser des ingrédients que les gens peuvent trouver chez eux. On va pas utiliser en particulier quand on voudrait faire un caramel par exemple en pâtisserie professionnelle, on va parfois utiliser du glucose, mais quand on va faire une recette de caramel dans un livre de pâtisserie grand public, on va oublier le glucose et on va le remplacer soit sur un caramel à sec, soit sur un caramel avec de l'eau. Mais en gros, oui, ça devient beaucoup plus accessible. Et ça permet justement de réussir des recettes qui sont même des grands classiques de la pâtisserie.
Guillemette Audicino.
Et puis vous avez remarqué, quand vous invitez des gens chez vous, vous avez passé absolument 14 heures à faire une daube. Mais en revanche, c'est le cake au citron maison que vous avez fait à la fin, où tout le monde dit oh, « c'est génial, tu sais faire... Voilà. » En fait, à chaque fois, les gens sont épatés par les desserts. Peut-être parce qu'au départ, ils sont impressionnés eux-mêmes de faire de la pâtisserie. Quand vous leur en offrez une maison, ils sont complètement épatés et on a droit à « ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle mon grand-oncle », alors que la daube, elle rappelle rien à personne.
François Perret.
Oui, le gâteau, le dessert, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de mystères autour de la pâtisserie aussi, sur la manière dont c'est fait, sur les ingrédients utilisés. Donc du coup, quand vous arrivez à un plat qui arrive, une viande ou des légumes, vous arrivez toujours à identifier qu'est-ce qu'il y a eu. Et voilà, le dessert conservera toujours sa touche de mystère. Et je pense que du coup, cette touche de mystère, elle provoque une espèce de waouh, parce qu'on se dit, mais comment il a fait ça, quoi.
Voilà. Bonjour, Dr Patrick Serogue, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez notamment publié Les kilos émotionnels. Alors, docteur Serogue, inutile de culpabiliser si on a envie de se faire plaisir en ce moment, en cette période de régime ou de détox, avec un millefeuille ou un Saint-Honoré, dans cette période particulièrement anxiogène, crise sanitaire oblige.
Dans cette période, vous savez, ce qui peut le faire le plus plaisir, c'est le mélange à la fois du sucre et du gras. Et la pâtisserie répond parfaitement, finalement, à cette demande. Donc, bien sûr qu'il faut se faire plaisir. Alors, après, le problème qui va se poser, ça va être les quantités, bien sûr.
Évidemment. Pourquoi les pâtisseries agissent comme des anxiolytiques ?
Eh bien, tout simplement parce que le mélange du gras et du sucré va apporter à la fois l'arôme que transporte le gras et le sucre qui va déclencher au niveau du cerveau la sécrétion d'endorphines et nous donner un infini plaisir. Alors, ce qui est une petite précaution, c'est essayer de consommer ce sucré et ce gras lentement. Plus vous allez le manger lentement, plus vous allez ressentir ce plaisir, et c'est la seule manière que l'on connaisse pour essayer de ralentir la frénésie qui pourrait se déclencher de vouloir manger toute la pâtisserie d'un coup.
Pourquoi la culpabilité est assez néfaste en matière d'alimentation ?
Parce que la culpabilité entraîne en fait un trouble du comportement alimentaire. Elle va réitérer l'acte de manger de nouveau des quantités plus ou moins importantes. Et plus vous vous sentez coupable, alors que au contraire vous voudriez arrêter de manger comme ça, et bien c'est tout à fait le contraire qui arrive. C'est comme si vous excitiez dans une partie de votre cerveau le besoin irrépressible de manger. Et plus vous êtes coupable, plus vous augmentez cette excitation finalement dans l'intimité des neurones de notre cerveau.
François Perret.
Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a les règles d'aujourd'hui, avec toute la presse qui met l'accent aussi sur le vegan, sur le bien-être, sur le bien manger. Et je constate quand même que la pâtisserie a jamais été aussi plébiscitée qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi ce que les gens pensent et ce que les gens font. Et très clairement, sur la pâtisserie, à mon avis, ils pensent pas du tout ce qu'ils font. Alors, ils font pas du tout ce qu'ils pensent.
Guillemette Audicino, pas du tout coupable quand elle déguste des pâtisseries.
Ah non, mais de toute façon, la culpabilité, c'est pas trop bon truc. Mais il y a une solution pour ne pas se sentir coupable éventuellement, c'est de décider de faire un dîner sucré. Enfin, en tout cas, de dire qu'un repas va être concentré sur je me tape un énorme millefeuille avec un chocolat chaud à côté, mais comme il n'y a ni couscous ni choucroute avant, tout va bien, quoi.
Moi, je négocie, je me dis, tiens, je vais marcher 3 heures en forêt et je me permets de manger ce millefeuille.
Moi, j'ai pas ce genre de négociation avec moi-même.
Julien Bisson.
Alors moi, j'ai une question pour les cuisiniers autour de la table. C'est quand je cuisine, moi, des pâtisseries, j'ai souvent tendance à diviser par 2 ou par 3 la quantité de sucre indiquée sur la recette. Et et c'est souvent toujours aussi bon. Alors, est-ce qu'on a besoin toujours d'avoir autant de sucre ou est-ce qu'on peut diminuer les doses de sucre?
C'est vrai qu'il y a une grande tendance à désucrer les pâtisseries en France en ce moment.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, alors désucrer, c'est un mot qui est toujours un peu dangereux. Je pense que ce qu'il faut, c'est créer l'équilibre. C'est essayer de jouer un petit peu avec le sucre, lui apporter cet amer, cet acide qui va permettre au sucre finalement de rester un petit peu à sa place. Mais quand vous dites désucrer, alors si vous arrivez à désucrer une meringue de moitié, vous me faites signe, ça m'intéresse. mais en tout cas, il y a certaines recettes, non, clairement, si vous désucrez de moitié, ça marchera pas, quoi.
Merci beaucoup, docteur Serog, de nous avoir déculpabilisé, de déguster des pâtisseries. Allez, place au livre.
Et bon appétit.
Merci. Julien Bisson, votre conseil littéraire se porte sur La ferme des animaux, le célèbre livre de George Orwell, avec des illustrations de Quentin Gréban, et c'est publié chez Mijad. Pourquoi lire cette fable sur le totalitarisme? C'est toujours d'actualité d'ailleurs.
Bien sûr, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, surtout du 1984, du même George Orwell, de sa faculté à anticiper la surveillance généralisée, le contrôle du vocabulaire, etc. Mais La ferme des animaux, c'est un autre livre non pas moins formidable d'Orwell pour analyser l'époque, et on peut le découvrir donc dans cette version illustrée et magnifiquement illustrée. La ferme des animaux, rappelons-le, c'est un court roman satirique, une fable qui voit les animaux de la basse-cour se révolter et chasser le fermier pour gagner leur liberté et aussi l'égalité entre tous. Sauf que si tous les animaux sont égaux, certains le sont plus que les autres, selon la célèbre formule du livre, et les cochons vont peu à peu s'accaparer le pouvoir sous la férule impitoyable d'un certain Napoléon. Alors Orwell publie ce livre en 1945, et on peut bien sûr y lire, comme lui-même l'entendait, une satire de la révolution russe et du totalitarisme soviétique, Napoléon figurant Staline, Boule de Neige, son allié devenu ennemi étant Trotsky, et le brave cheval Malabar, la figure tragique du livre, c'est la figure de Stakhanov, le pauvre travailleur écrasé par l'idéologie. Alors vous allez me dire, cher Ali, mais pourquoi conseiller ça à toute la famille et pourquoi lire ce genre de texte à vos enfants, qui a priori se contrefichent de la révolution de 17 comme de leur dernière chaussette sale? Eh bien, sous couvert de fables animalières, il n'existe sans doute pas de meilleur manuel de philosophie politique pour permettre à nos bambins de comprendre des problèmes bien actuels. Comment on peut manipuler l'information, comment on peut construire des boucs émissaires, comment on peut faire accepter des inégalités au nom de principes dévoyés. Est-ce que les cochons ont vraiment besoin de plus de fourrage parce que ce sont eux qui mènent les travaux intellectuels? Est-ce qu'il faut toujours croire le porte-parole Bribabil quand il explique les décisions de son chef? Eh bien tout ça, toutes ces questions-là sont là avec des histoires de poules, d'ânes et de moutons. Ça rend accessible aux enfants des concepts ou des injustices. Et le texte d'Orwell est un petit bijou de lucidité et de simplicité dont les enfants, même sans en connaître l'origine historique, peuvent très bien comprendre les leçons et le second degré. Il ne faut donc pas avoir peur de leur lire le texte intégral, comme celui qui est proposé dans cette version illustrée par Quentin Gréban, et version illustrée où en plus ils vont pouvoir se plonger dans ces magnifiques aquarelles qui rendent à ces animaux leurs sentiments si humains, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs. Et enfin, si vous avez déjà lu Orwell et si vous souhaitez découvrir une version revisitée de cette histoire, je ne peux que vous conseiller de découvrir un autre ouvrage, c'est la série en BD Le Château des Animaux, c'est par Delep et Dorisson, et c'est un magnifique hommage dont on attend désormais la suite.
La ferme des animaux de George Orwell, avec des illustrations de Quentin Gréban, et c'est publié chez Mijad. Alors, un film à regarder en famille ce week-end, Ghostbusters Afterlife, une suite du célèbre SOS Phantom des années 1980, et c'est réalisé par Jason Reitman, et c'est sorti en décembre dernier.
Exactement, Jason Reitman qui est le fils de Ivan Reitman. C'est vrai que le titre français SOS Fantôme l'héritage sonne moins bien que Ghostbusters Afterlife qui joue avec malice sur l'idée de l'au-delà. Alors oui, c'est un vrai coup de cœur parce que SOS Fantôme, c'est l'un des films les plus emblématiques des années 80, un condensé d'humour et de grands spectacles avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, et qu'on revoit toujours avec nostalgie dans l'ensemble, est assez miraculeux. Et en fait, Ghostbusters c'est si miraculeux que la recette n'a jamais réussi ensuite à être répétée entre suites décevantes, produits marketing à gogo, et met un reboot 100% féminin il y a quelques années, 100% oubliable. Donc en fait, l'idée d'une nouvelle suite, ça pouvait a priori faire craindre le pire, et pourtant SOS Fantôme l'héritage réussit là où tous les autres les précédents avaient échoué, en retrouvant l'humour et la fraîcheur du premier volet, mais aussi en réussissant à se réinventer sans trahir l'esprit originel. L'histoire, je le disais, c'est à la ferme, avec cette histoire d'une mère de deux enfants qui hérite d'une vieille ferme au milieu de l'Oklahoma, un coin perdu où a priori il ne se passe jamais rien, sauf quelques manifestations paranormales sur lesquelles les gamins vont commencer commencé à enquêter et qui vont finir par ramener quelques figures du passé. Donc, alors, j'ai envie de vous dire, attachez vos ceintures dans la fameuse voiture Ghostbuster. N'hésitez pas à croiser les fluves en famille parce que les parents apprécieront, eux, l'hommage au film de 1984. Les enfants, eux, seront séduits par cette nouvelle escouade d'adolescents chasseurs de fantômes ambiance Stranger Things. De quoi filer la chair de poule ou du moins réveiller notre tendresse pour cet univers qu'on avait un peu oublié depuis 40 ans, qu'on avait laissé là et dont on attendait de pouvoir se replonger dedans.
Alors, Julien, 1000%, c'est vrai que la suite qui avait été faite 100% féminine était un nanar absolu. Et celui-là, il est vraiment bien. Il est panier. Il y a d'ailleurs le jeune acteur de Stranger Things, je crois, qui joue dedans. C'est un Goonies 3.0 où c'est vraiment, vraiment un super film, vraiment bien réussi.
Oui, mais je suis d'accord. D'abord, de toute façon, Grégory vient de prononcer le mot magique, Goonies. et c'est vrai que cette fascination pour les années 80, en ce moment, vraiment donne de très bonnes choses. Et là, évidemment, c'est magnifique, parce que c'est vraiment l'héritage au sens propre. Le fils, Jason, qui rend hommage à son père, Yvan. Enfin, donc, il y a quelque chose de fondamentalement à la fois doux, vintage et moderne.
Et puis, un hommage émouvant aussi à Harold Ramis, qui jouait Egon Spengler et qui nous a quittés il y a quelques années.
Ghostbusters Afterlife, à voir au cinéma en ce moment. Il est déjà l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, j'ai très envie de faire de la pâtisserie. Et en même temps, j'ai très envie de ne rien foutre du tout. Le week-end, c'est tout juste si je n'ai pas le sentiment d'être encore confinée, en regardant la vaisselle s'enfiler dans l'évier. Bon, j'aurai sûrement le courage de la mettre dans la machine, quand j'aurai eu au préalable l'énergie d'enlever mon jogging mou pour enfiler un jean. Le week-end, je pense particulièrement à mon amie Brie Van de Kamp. Oui, Brie est mon amie, justement parce que je ne lui ressemble pas. Vous vous souvenez de tous ces tests qui florissaient partout sur Internet et dans les magazines de psycho il y a quelques années, quand la série triomphait à la télé? Quel desperate housewife êtes-vous? Moi, je me fichais de savoir si je ressemblais plus à Lynette, Suzanne ou Brie, d'autant que la série de Mark Cherry était faite pour subvertir le genre très codifié des sitcoms créés dans les années 50 avec des mères idéales, mais aussi pour dénoncer la culture de la comparaison entre les femmes. Bon, je dois quand même l'avouer, je me crispe un peu quand quelqu'un prétend avoir mangé quelque part une blanquette meilleure que la mienne.
Oh, dis donc, oh là là, c'est de loin ta meilleure tarte au citron meringuée.
Ça, ce n'est pas ma tarte.
D'accord, je suis démasquée. C'est la mienne.
Pourrais-je savoir où est celle que j'ai apportée?
Je l'ai mise dans le frigo. Je voulais juste que vous goûtiez la mienne.
Nous étions convenus, me semble-t-il, que c'était à moi d'apporter le dessert.
Oui, je sais, mais tout le monde dit que vous êtes tellement douée en pâtisserie qu'en fait, j'espérais que vous me donneriez quelques bons tuyaux pour améliorer ma recette.
Eh bien, de toute évidence, vous n'avez pas besoin de conseils. Et comme mes amis l'ont dit, c'est la meilleure qu'elles aient mangée.
Bon, vous avez entendu sa petite voix crispée. Pour mon amie Brie, c'est le pire qui puisse arriver. Sa nouvelle voisine, Catherine Mayfair, fait une meilleure tarte au citron qu'elle. Catherine est une ancienne victime de violences conjugales qui a bien du mérite de s'être reconstruite au point d'être capable de confectionner des tartes. Mais c'est ainsi. Brie me bouleverse dans son obsession quasi enfantine d'être parfaite. Car plus elle tend vers l'excellence, plus les ratages et les nuages s'accumulent sur son brushing roux figé, venu tout droit du cinéma hollywoodien des années 50, alors que Lynette a un style plus années 70, Suzanne plutôt années 90 et Gabrielle carrément années 2000. Plus Brie s'échine à être dans la norme et garder le contrôle, et plus elle détruit tout ce qu'elle touche.
Et ça vous plaît, Guillemette, que sa quête de perfection soit toxique?
Ah, je l'avoue, un peu quand même. Je n'ai jamais oublié un conseil de mon grand-père. Le mieux est l'ennemi du bien. Nous l'avons toutes vécu. Pour faire la maline, on ajoute un ingrédient de dernière minute à un plat qu'on maîtrise déjà parfaitement, et pim, la recette est gâchée. Par perfectionnisme, on remet une couche de mascara et paf, ça fait un gros pâté, ça coule et on a l'air d'un panda. Mais ce que j'aime avant tout chez mon amie, c'est qu'elle est la plus romanesque des quatre héroïnes de Visceral Lane. À mi-chemin entre une Mrs. Dalloway de banlieue et une héroïne d'Hitchcock. Entre un bouquet parfait une cuite monumentale et un cadavre dans le chantier d'à côté. Son premier mari lui balance « J'en peux plus de vivre dans une publicité de détergent !» Alors qu'en fait, Brie est une pub pour le Cabernet Sauvignon ou le sexe sauvage avec des inconnus. En fait, Brie, paradoxalement, est la plus libre des quatre, fichant son fils à la porte ou collectionnant les amants. Bon, même si elle s'arrête en plein ébat parce qu'il y a des miettes sur la table de chevet. Et en creux, elle incarne le plus beau remède à la comparaison féminine, ce poison de la sororité. En fait, passé un premier agacement narcissique, je suis sincèrement heureuse qu'une amie fasse une meilleure blanquette que moi, ou qu'elle soit plus drôle, ou qu'elle sache résoudre un problème de maths qui me laisse pantoise. Et je le lui dis, et je le lui redis. Je la complimente, car son sourire est bien plus bienfaisant que de chercher à être la meilleure. Vous savez en fait, par où commence la perfection féminine ? La vraie ? Par l'admiration sans borne pour les autres femmes.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino, Thibaut de Saint-Maurice, vous êtes un peu Brie ?
Oui, bien sûr, évidemment, surtout du point de vue capillaire. Mais je valide cette belle chute, formule de chute de notre ami Guillemette.
Et on peut retrouver la chronique de Guillemette Audicino en podcast sur l'appli France Inter. Dans un instant, comment réaliser des classiques de la pâtisserie à la maison, en compagnie notamment du chef pâtissier du Ritz Paris, François Perret, avec notre chef Grégory Cohen. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière, Julia Macarez, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation était signée David Leprince et Claire Destacan. La programmation musicale, Valentine Chedebois. À la technique cette semaine, le duo de choc Kevin Pelot et Pauline Laverdure et Pierre-Yves De Rolin qui nous accompagne ce matin. Et on écoute George Harrison, un titre de 1987.
I got
George Harrison, Got My Mind Set On You.
Puis vous mettez de côté le Paris-Brest, là, il en reste qu'un, je vais pas le rater celui-là.
Grand bien vous fasse.
Bah vas-y, bouffe-le. T'as toujours adoré le Paris-Brest. S'il était aussi bon que celui que faisait Mamie Huguette, hein?
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse loisir et nous vous donnons des conseils pour réaliser des classiques de la pâtisserie à la maison, comme la tropézienne de mon cher Michel Oliver.
Et il y a un gâteau qui s'appelle la tarte de Saint-Tropez.
Qui est-ce qui a dit que Saint-Tropez, c'était pas de la tarte?
On en parlera tout à l'heure. On ne sait pas d'où vient ce mot, mais j'ai eu envie de vous la faire, tarte dite de Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il nous faut, Maurice? De la levure du boulanger qui est...
Ah, la levure est un champignon microscopique.
Alors, un paquet devant moi de 42 grammes de levure du boulanger. Il m'en faut la moitié. 2 cuillères à soupe de lait écrémé. En poudre, on ajoute 50 grammes de beurre ramolli.
Oui.
C'est pas joli tout ça, mais qu'est-ce
non,
que c'est bon, hein.
Bien,
mais tu vois, qu'est-ce que c'est bon. Et là, Maurice, avec ta maestria habituelle,
bien connu,
tu vas me touiller tout ça. Tu vas me touiller tout ça ensemble. Bon, et moi j'arrive maintenant à la farine. 350 grammes de farine pour faire cette tarte. Oh, carrément. Qu'il a bien touillé.
Oui, je sais pas tout à fait.
Mais si, tu es un touilleur remarquable, Maurice.
Extrait de La vérité est au fond de la marmite avec Michel Oliver et Maurice Favière. C'était en 1982. François Perret, je rappelle que vous êtes pâtissier au Ritz Paris. Nathalie Elal, journaliste gastronomique et co-autrice du livre Le goût de Paris et de la région Île-de-France chez Hachette Cuisine. Alors, François Perret, réaliser des classiques de la pâtisserie comme le Saint-Honoré, le millefeuille, la tropézienne, cela peut paraître quasiment impossible pour le pâtissier amateur. Hein.
En fait, ce qui fait peur souvent, c'est les pâtes. Déjà, le feuilletage ou les brioches, les pâtes levées, tout ça, c'est des choses qui effraient un petit peu à la maison parce que c'est des choses qui s'anticipent beaucoup.
Oui. Grégory Cohen.
Oui, la vraie différence entre la cuisine et la pâtisserie, c'est le temps. Sur la cuisine, on peut faire quelque chose d'immédiat. Sur la pâtisserie, on va avoir des temps de prise au froid, des temps de levée, des temps de pousse. Donc, c'est un peu compliqué. Après, une fois qu'on a quelques techniques qui sont pas hyper compliquées, je sais faire de la pâte à choux. Une fois que je sais faire de la pâte à choux, je peux faire mes éclairs. Je peux faire mes profiteroles, je peux faire mes choux, je peux faire mon Paris-Brest. En gros, j'ai des bases principales. La même chose sur les pâtes, quand François parle des pâtes, évidemment, c'est les pâtes qui font peur. Une de celles qui fait le plus peur, c'est la pâte feuilletée. Donc après, en fonction de son degré de connaissance et sa volonté de se lancer, on peut soit acheter une pâte feuilletée qui est déjà faite et qui sont pas mal aujourd'hui, soit alors partir sur des pâtes feuilletées plus simples. Mais une fois que je fais ma pâte feuilletée, je fais ma galette des rois, je fais ma tarte fine aux pommes, je fais mon Saint-Honoré. Une fois que je fais ma pâte sablée, bah, je fais toutes mes tartes, que ce soit ma tarte au citron, ma tarte aux fraises, etc. J'ai ma base. Une fois que j'ai ma pâte brisée, bah, je peux faire mes flans, je peux faire ma tatin, etc.
Donc, et je passe mon CAP quelques... pâtissier dans la foulée.
Comment?
Et je passe mon CAP pâtissier.
Non, justement, non. Non, Nathalie, non. Aujourd'hui, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir un CAP pâtissier pour pouvoir s'amuser en pâtisserie et faire les choses en pâtisserie. Il y a des recettes qui sont simples. La pâte sablée, elle est méga simple à faire et elle nous permet de faire énormément de choses.
Je vais me faire l'avocat du diable et aller un peu dans le sens de Nathalie Elal. À quoi bon essayer de réaliser un Paris-Brest ou un millefeuille quand d'excellents pâtissiers proposent la même chose en beaucoup mieux?
Ah, vous voulez que je réponde à ça?
Oui,
vraiment.
Bah,
déjà, on va vers ce que Julien dit. Déjà, on va pouvoir l'adapter à ses propres goûts. Donc tout à l'heure, Julien disait, moi, je mets un petit peu moins de sucre, et finalement, c'est quand même bien. On a chacun des goûts qui sont un peu différents, et puis on a aussi la possibilité d'abord de le faire. Il y a une satisfaction qui est complètement dingue à faire quelque chose. Et après, on a des pâtes, c'est-à-dire dans le sens un tour de main de pâtissier. Qui va faire que, j'adore le Paris-Brest de François. J'aime beaucoup celui de Claire Etzler, qui est une des meilleures pâtissières au monde et qui est chez nous. J'aime celui de Yann Couvreur parce qu'il est aussi différent. Et pourtant, ça a exactement la même dénomination. C'est un Paris-Brest. Et ben, de même, chez moi, je peux faire mon Paris-Brest à moi.
François Perret.
Déjà, il faut avoir envie de le faire. Voilà, ce qu'il faut, c'est se lancer dans la pâtisserie. Si on en a envie, si on a juste envie de le manger, on est là pour ça. Et si on veut se faire plaisir en le faisant et en le mangeant, c'est possible aussi. Voilà, je pense qu'il faut faire ce dont on a envie. Et ce qu'il faut surtout, c'est l'anticiper. Je reviens là-dessus parce que faire un Paris-Brest en une journée, ça va être compliqué.
Ouais, c'est un challenge. Hein.
Quelles sont les grandes préparations basiques à maîtriser, Grégory Cohen? Je rappelle que vous avez publié par le passé 60 classiques de la pâtisserie chez Larousse.
Bah, si je sais faire une crème pâtissière, je peux faire faire énormément de choses. Si je sais faire une crème mousseline, je peux faire énormément de choses. Un fraisier, par exemple. Si je sais faire
la génoise,
une génoise, je peux aussi faire énormément de choses. En gros, on a peut-être une quinzaine de basiques, vraiment classiques, basiques, qui vont nous permettre d'être le socle d'une expression multiple et variée.
Et puis, il ne faut pas avoir peur d'essayer, de se tromper, de recommencer.
L'exemple, c'est la pâte à choux.
Ça fait partie du jeu aussi.
Alors, la pâte à choux et le macaron. Macaronné, c'est un des trucs qui fait le plus peur à plein de monde. On va le faire une fois, puis on va se retrouver avec des espèces de petites bosselettes dedans. Le macaron va pas être lisse, il va pas cuire comme on veut, il y aura pas la collerette, bref. Et puis on va réessayer, on va s'adapter à son matériel, son four, comment est-ce qu'il cuit, est-ce que la convection, est-ce que le rayonnement. Et une fois qu'on a fait nos différents tests, nos différents essais, et qu'on a réussi à comprendre qu'il chauffait un petit peu trop par en dessous, trop par derrière, il faut que je tourne, etc. On va réussir à faire ce qu'on veut. La pâte à choux, une fois qu'on sait la faire, c'est facile.
Nathalie Elal.
Je trouve qu'à la maison, ce qui fait le plus peur, c'est pas tant le goût, parce que le goût, bon, au final, si on a des bons ingrédients, ça devrait être à peu près correct, à peu près à la hauteur. Ce qui fait peur, c'est le visuel. Je reviens sur l'exemple de la blanquette et du cake au citron, mais c'est vrai que si à la fin du repas, la couronne de pâte à choux est fait un peu la gueule, si le fraisier il bascule d'un du mauvais côté avec les fraises qui dégringolent, bon, là on se dit qu'on aurait mieux fait de faire confiance à un artisan, et heureusement qu'ils sont là.
François Perret.
Oui, alors c'est vrai que quand on fait quelque chose à la maison, il y a un risque que ce soit un peu moins abouti, oui. Mais ce sera fait maison. Après, je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, la pâtisserie, il faut que ce soit beau, parce que personnellement, moi, j'aime bien manger quelque chose de beau. Et je pense que quand on a la chance d'être dans des maisons comme les nôtres, notamment comme le Ritz, j'ai envie de faire quelque chose de beau, parce que je trouve que c'est le beau qui va faire venir et c'est le bon qui fera revenir. Maintenant, quand c'est beau, ça doit être bon.
Guillemette.
Moi, je pense qu'il faut segmenter. Il faut, quand on se lance dans la pâtisserie, il faut décider de faire tout un repas salé, quasiment acheté chez le traiteur ou surgelé, et se concentrer sur le gâteau. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas tous des fours avec 14 portes, etc. Donc, ça, c'est bien mignon. Mais comment vous mettez votre magnifique tarte bordelou à cuire, alors que le roast beef est à l'intérieur, ou que le roast beef a éclaté de jus et de gras, c'est tout ça. Le truc, et qu'après vos poires, elles vont sentir
ça,
le bœuf.
Réaliste.
Oui, mais on est tous concentrés. Donc, ouais. Résultat, souvent, on laisse tomber le dessert parce qu'il y a déjà trop de trucs avant et on peut pas gérer tout ce temps. Donc, faites des repas surgelés, salés, mais éclatez-vous sur le dessert à la fin.
Il est consterné, Grégory Cohen.
Oui, mais il faut bien choisir au début.
Sinon, faites pas une île flottante. Vous faites une île flottante et pas une tarte bordelou.
Invitez les gens au goûter. Invitez les gens au goûter.
Alors, Nathalie Elal, vous répertoriez des classiques de la pâtisserie qui sont nés à Paris ou en Île-de-France. Alors je pense à l'une de mes pâtisseries préférées, c'est le Saint-Honoré, né en 1846. Rappelons que Saint-Honoré, c'est le saint patron des boulangers. Qui a créé cette belle pâtisserie?
En fait, il y a plutôt trois pâtissiers parisiens qui l'ont perfectionné. D'abord, il y a un pâtissier parisien qui s'appelle Chiboust, qui a étalé une couronne de choux remplie de crème pâtissière. Il les a fixés à un socle de pâte brisée avec du caramel liquide. Et puis, il l'a baptisé Saint-Honoré en hommage à son saint patron. Et puis ensuite, eh bien, ça a été perfectionné par un autre pâtissier renommé toujours de la même époque, c'est-à-dire on est en 1846. Et ce pâtissier s'appelait Auguste Julien. Et lui, il va perfectionner en faisant sa couronne avec de la pâte à choux au lieu d'un boudin de pâte briochée qui était à l'origine. D'accord, sur ce gâteau. Et puis enfin, on a Jules Gouffet, le grand chef cuisinier qu'on connaît de la fin du 19e siècle, qui va le décliner en plusieurs formules avec des parfums différents pour les crèmes cuites à l'intérieur, c'est-à-dire vanille, café, chocolat et zeste d'orange. Et ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, on est moins créatif qu'autrefois sur le Saint-Honoré parce que c'est toujours la même crème vanillée à l'intérieur, quel que soit le grand pâtissier qu'il réalise.
François Perret, c'est si difficile que ça à réaliser chez soi un Saint-Honoré ? Et quelles sont les techniques à maîtriser si on veut essayer de s'y lancer ce week-end ?
Si on veut s'y lancer ce week-end, encore une fois, on est quel jour aujourd'hui ?
On est vendredi.
Bah, c'est parfait. Alors déjà, je pense qu'on a pris un peu de retard. Mais non, les techniques à avoir, c'est des bons ingrédients déjà. Et si le feuilletage, de toute façon, il est un peu moins bien touré, c'est pas très grave. Il bougera un peu, il sera un peu ovale, ce sera un ballon de rugby, mais c'est pas très grave.
Grégory Cohen.
Honnêtement, là, on est parti sur la pâtisserie qui est sans doute celle qui cumule le plus de
contraintes.
De contraintes, hein, quand même. Parce qu'il faut savoir faire de la pâte à choux.
On est d'accord.
savoir faire.
Donc le Saint-Honoré, on va l'acheter en pâtisserie alors.
Bah, le Saint-O, c'est quand on a déjà maîtrisé la pâte à choux, quand on s'est entraîné à faire de la pâte feuilletée, quand notre crème pâtissière allait bien et qu'on veut passer à la crème chibouste. Enfin, il y a pas mal de choses.
Passons au millefeuille. Qui l'a inventé, Nathalie Hélal? Ce millefeuille, c'était en 1867. Hein.
Oui, alors officiellement.
Je suis pas sûre que ce soit plus simple. Hein.
Oui, parce que le feuilletage, là encore.
Non, on peut acheter une pâte feuilletée toute faite.
Non, alors c'est difficile avec une pâte feuilletée. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai essayé. Ah oui. Je trouve que ça rend pas pareil, d'accord, même s'il y en a des très très bonnes. Bon, c'est vrai.
Qui l'a inventé?
Alors, c'est vrai que ça a été inventé par plusieurs personnes. Là encore, il y a plusieurs paternités. C'est-à-dire qu'on pense que le premier à l'avoir inventé, c'est un homme qui s'appelait François-Pierre de La Varenne au XVIIe siècle, mais à l'époque, le millefeuille ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait, là encore, des couches de pâte feuilletée, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de crème du tout, il y avait de la confiture entre les abaisses de feuilletage, et puis il y avait un joli glaçage blanc au-dessus. Et puis ensuite, eh bien, en 1867, rue du Bac à Paris, il y a un pâtissier qui s'appelle Seugniot, et qui est déjà très célèbre parce qu'il fait des pâtes feuilletées très légères, et on aime ça déjà à l'époque à Paris, on est très gourmand, on est très pâtissier à Paris, c'est une ville pâtissière. Et donc ce pâtissier va concrétiser et épurer la recette d'origine.
Le millefeuille maison, François Perret, voilà, pareil, c'est un peu compliqué à réaliser à la maison.
Il y a toujours cette pâte feuilletée, mais après, bon, voilà, il faut savoir se lancer, faut pas hésiter. En plus, la pâte feuilletée, elle se congèle crue, donc faut pas hésiter à en faire un peu plus et à couper en quatre son pâton et à le congeler chez soi.
Et l'opéra, une pâtisserie assez récente, inventée en 1955, c'est ça?
Alors, ça, c'est la version officielle. C'est le plus bel exemple de plagiat pâtissier que l'on connaisse. En fait, il a été inventé probablement avant la guerre par un pâtissier qui s'appelait Clichy. Il a fait déguster son petit chef-d'œuvre à ses deux beaux-frères. L'un était propriétaire à l'époque de Daloyau, l'autre d'une autre grande pâtisserie. Une semaine après, Daloyau sort l'opéra. Mais ce qu'il y a d'assez génial avec ce gâteau, c'est aussi la première fois qu'on trouve un gâteau avec son nom écrit dessus en lettres d'or. Opéra.
L'opéra, difficile à réaliser aussi à la maison, Grégory Cohen.
L'opéra, pas si compliqué, parce qu'il y a une crème au beurre, c'est quand même un des trucs les plus simples à faire. Mais j'imagine l'ambiance au déjeuner dominico, une fois que le type amène son opéra et qu'il a piqué celui de son beau-frère.
En 55, oui.
Quel est le classique de la pâtisserie qu'on peut réaliser donc relativement facilement chez soi, François Perret, un conseil peut-être ou une astuce?
Meringue, on peut faire des très bons Mont Blanc. On peut faire des très bons Mont Blanc. La pavlova, là, c'est des choses qu'on peut anticiper, on les met dans des boîtes un petit peu hermétiques, on peut les faire le mercredi soir en rentrant, et puis on monte Saint-Pavlova le samedi sans problème.
Oui, la meringue, c'est ce qu'il y a de plus facile. Une fois que je sais faire ma pâte à choux, honnêtement, si je devais dire, il y a un élément à comprendre et à faire, il faudrait savoir faire sa pâte à choux, parce qu'une fois que je sais faire ma pâte à choux, je peux m'amuser à essayer de partir sur plein de recettes différentes qui vont de la religieuse à l'éclair, au chou, au profiterole.
Alors comment ne pas rater sa pâte à choux? Une astuce peut-être, Grégory Cohen?
La pâte à choux, en fait, la difficulté de la pâte à choux, enfin la pâte à choux, c'est un mélange de pas mal de choses. Le jaune d'œuf qui va faire gonfler la pâte à choux. Mais alors vraiment, pour pas rater sa pâte à choux, une fois qu'on a fait notre appareil à pâte à choux, il y a un petit truc qui s'appelle le craquelin, qui est quelque chose c'est qu'on met sur notre pâte à choux. En fait, c'est un mélange de beurre et de sucre. Mmh. Et en réalité, pour avoir une homogénéité de la pâte à choux, quand le chou va gonfler et au lieu de craquer, on va avoir ce petit craquelin qui va être dessus, qui va le recouvrir et qui va permettre d'avoir une homogénéité du chou pour avoir une meilleure cuisson. Faut ouvrir aussi un petit peu son four. Bref, faut suivre les recettes. C'est un petit peu long, la recette de la pâte à choux, mais c'est pas si compliqué que ça à faire.
Allez, il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors vous, Thibaut de Saint-Maurice, ce qui vous intéresse dans les classiques de la pâtisserie, c'est qu'ils soient classiques.
Ben oui, enfin, ça me plaît bien que ce soit de la pâtisserie aussi, mais ça me paraît aussi une excellente occasion donc de s'arrêter sur ce terme classique qu'on a prononcé plein de fois depuis le début de l'émission, et de se demander justement ce que c'est qu'un classique et ce que l'on peut en faire. Pourquoi ? Parce que des classiques, il y en a partout. En cuisine, donc, mais aussi en littérature, en musique, au cinéma, dans la mode, mais leur valeur n'est pas toujours très claire. D'un côté, côté, le classique semble être une valeur sûre qui a fait ses preuves et qui est largement partagée. Un classique du cinéma comme La Grande Vadrouille, et ben c'est un bon film que beaucoup de gens ont vu et que l'on continue de montrer à ses enfants. Tandis qu'Un éclair au chocolat, ça fait aussi toujours plaisir. Mais d'un autre côté, le classique, ça sonne parfois aussi comme un reproche. Ce qui est classique, trop classique, très classique, ça manque d'originalité ou c'est pas suffisamment créatif. Le classique semble donc condamné en ce sens à la répétition, voire à un certain goût médian. Le classique, c'est ce qui plaît à tout le monde.
D'où la tendance et peut-être la nécessité de revisiter les classiques.
Oui, c'est peut-être la clé pour maintenir leur inspiration vivante. Ça me fait penser à cette punchline, enfin à ce vers du poète René Char. René Char écrit « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». En disant ça, René Char pointe à la fois le tragique de notre modernité, parce que sans testament, nous ne savons pas toujours quoi faire, hein, comment distribuer l'héritage que nous recevons. Mais sans testament aussi, nous voilà toutes et tous libres de recevoir, d'essayer, d'inventer, de faire avant de transmettre à notre tour. Au fond, c'est la seule manière de maintenir une certaine tradition vivante, non pas de répéter ses classiques et de s'y tenir, mais au contraire de les connaître et de les réinterpréter. La puissance d'une œuvre classique, d'une symphonie de Mozart, donc comme d'un Paris-Brest, d'un roman de Balzac comme d'un Millefeuille, c'est à la fois de traverser le temps, les époques et les générations, et en même temps d'entrer en résonance avec chaque époque et de raconter une histoire à chaque génération. Mais à une condition, c'est celle d'être maintenu vivant et non pas simplement d'être précisément et historiquement reconstitué. Alors comment est-ce qu'on maintient vivant ces classiques ? Eh bien en faisant l'effort de les comprendre à nouveau. Cette fois, c'est le philosophe Wittgenstein qui disait « Comprendre, c'est savoir comment continuer ». Eh bien pour comprendre, il faut prendre le temps de se pencher dessus, d'analyser les éléments, de les déstructurer parfois, comme on aime bien le faire en pâtisserie aussi, de proposer des interprétations nouvelles, de remettre en scène, comme toutes ces pièces de Molière d'ailleurs, qui vont être rejouées cette année en 2022, 400e anniversaire de sa naissance. Et c'est ainsi que ces classiques continuent de constituer des références largement partagées qui vont installer entre nous une culture commune et un langage commun. Alors pire que d'être héritier d'un héritage sans testament, ce serait de ne pas avoir d'héritage du tout. Parce que la richesse de nos individualités, elle ne sera jamais suffisante pour raconter la puissance et la diversité de toute notre humanité. Ça me paraît donc assez important de connaître ces classiques, précisément pour pouvoir continuer de les transmettre et de s'en éloigner à loisir aussi régulièrement pour finir peut-être par en créer de nouveaux. En tout cas, c'est une excellente raison donc de continuer à manger des flans pâtissiers, des choux à la crème et des tartes au citron.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice. François Perret, vous ressentez ce besoin impérieux de réinventer, de revisiter des classiques ?
Je ne sais pas si le mot réinventer est le bon mot. Aujourd'hui, on essaye d'apporter notre regard sur la pâtisserie, aussi bien sur le goût que sur les formes. Et quand on a la chance d'être dans des maisons comme celle dans laquelle je suis, on se doit aussi d'apporter un certain regard différent. Là, j'ai notamment récemment créé les boissons pâtissières, qui est un gâteau à boire. Et là, je pense qu'on est dans l'innovation. Le changement de forme d'un pain au chocolat et d'un croissant, et non pas pour le buzz, mais plutôt pour la praticité de dégustation et pour le chocolat à chaque bouchée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important, effectivement, il y a ce qui a été fait hier, il ne faut pas l'oublier, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dire que ça ne doit pas changer, quoi. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que pâtissier et professionnel de faire avancer le métier. Voilà,
allez, j'espère. Après les nourritures de l'esprit, les nourritures terrestres avec Grégory Cohen. Grégory Cohen, quelle est la recette à partager ce week-end ?
Alors, à lire Ebéi, il s'agit d'aubergines confites au miso. Pour réaliser cette recette, il vous faudra deux belles aubergines non traitées, coupées en cubes d'environ 2 cm de diamètre, 2 cuillères à soupe de pâte miso blanche. Alors, la pâte miso, c'est une pâte à haute teneur en protéines. C'est une pâte de soja avec des céréales fermentées, du riz, de l'orge. Il nous faudra 2 cuillères à soupe de mirine. C'est un alcool de riz légèrement sucré. Hein, on est en Asie, je vous l'avais dit. 1 cuillère à soupe de sauce soja, une demi cuillère à café d'huile de sésame et une cuillère à soupe de miel. Moi, j'aime bien le miel de printemps. Alors, dans un bol, on va mélanger tous les ingrédients. On ajoute 2 cuillères à soupe d'eau. On ajoute ensuite les dés d'aubergine et on mélange pour bien enrober le tout. On place le tout dans un plat à gratin et on enfourne à 200 degrés pendant 10 minutes. Ensuite, on baisse son four à 170 degrés et on laisse cuire encore 10 à 15 minutes. C'est prêt, c'est tout, c'est simple, oui Maya. Et elles vont être fondantes. Si on veut, on peut les passer sous la grille du four 5 minutes minutes pour les caraméliser légèrement. Tiens, c'est compliqué à dire ça. Au moment de servir, on peut ajouter des graines de sésame ainsi que des feuilles de persil plat et un filet d'huile d'olive.
Et on peut retrouver votre recette sur votre compte Instagram, Grégory Cohen Off, off avec
deux F.
Et dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Et en attendant, on écoute Feu Chatterton, compagnon.
Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît.
Il aurait dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnon des mauvais jours, que vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil vif, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au conseil pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon. Pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer.
Chatterton, compagnie.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entailles.
Sur France Inter.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette. On reste dans l'univers de la gourmandise, hein?
Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était pas très light pendant cette émission. Donc on va se demander ce que manger tout ce sucre et tout ce gras produirait sur notre sexualité. Côté sucre, c'est pas de la tarte. Cette substance libère en un éclair de l'insuline qui fait baisser la testostérone, donc le désir. Côté gras, pas de souci à court terme, mais attention au long terme. Le gras peut rétrécir et engorger les vaisseaux sanguins façon loukoum, ce qui peut compliquer l'orgasme et les érections. C'est pas rédhibitoire bien sûr, mais faute d'atteindre le septième ciel, on s'arrêtera peut-être au Mont Blanc.
Grégory Cohen est très inquiet là. Il y a également la question de l'image de soi.
Oui, et bien sûr, ça compte beaucoup. En France, je cite les chiffres de l'IFOP, 40% des femmes minces se trouvent jolies, mais seulement 10% des femmes en surpoids ou obèses. Or, on sait que la satisfaction ou même la liberté sexuelle augmente en se fondant sur la confiance en soi. Ceci dit, on ne s'alarme pas. Quand on observe la satisfaction sentimentale des femmes, on s'aperçoit que la corpulence n'a aucun impact. Les plus rondes ne vont donc pas finir divorcées. Et quand on regarde la satisfaction sexuelle, certes elle va croissant avec la minceur, mais pas de beaucoup. En attendant, c'est vrai que les femmes les plus minces sont celles qui trempent le plus souvent leurs biscuits et qui ont le plus gros millefeuille de pratique.
Du coup, ce que tu recommandes, Maya, c'est que tout le monde se mette au régime sans pâtisserie ?
Eh bien non, et ce malgré les messages hyper anxiogènes dont on nous rebat les oreillettes. Florilège de titres trouvés en ligne, comment le sucre détruit votre vie sexuelle ou comment le gras va démolir votre mariage. Ne vous laissez pas impressionner, tout ça c'est du flan. Dès qu'on se plonge dans le détail des études scientifiques, on s'aperçoit que c'est très compliqué d'établir des règles valables pour tout le monde. On peut avoir du gras et jouir d'une vie sexuelle formidable, de même qu'on peut se gaver de sucre pour bénéficier de ses effets anti-stress. De toute façon, les régimes, on le sait, c'est peine perdue et même pain perdu. Chaussons le naturel, il revient au galop.
Oh là là.
Mais c'est surtout quand on se tourne vers la sociologie que les choses deviennent intéressantes. Parce que les problèmes de surpoids, ils sont essentiellement dus à un environnement social inadapté. Et en sexualité, c'est exactement le cas. On a un érotisme friand de personnes minces, un kamasutra friand de personnes souples, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à la réalité du désir ou du plaisir. Quand j'habitais aux États-Unis, un peu plus loin que le Paris-Brest, j'avais assisté à un atelier sexe pour personnes obèses. L'éducatrice expliquait avec une bienveillance religieuse comment choisir ses sextoys, dans quelle position les utiliser, avec plein d'astuces pour que ça passe crème. J'ai appris un million de trucs. C'était d'excellents conseils et ça permettait de sortir des prophéties où l'oncle surpoids soit synonyme de position et de pratique pauvre comme un mendiant. Par ailleurs, il y a des pratiques que le gras favorise, comme les coïts entre les seins et entre les cuisses, le fait-sitting et certains jeux de domination. D'où ma conclusion, sauf problème médical archi-grave, il n'y a pas de corps inadapté au sexe, à condition qu'on arrête de se gaufrer une culture sexuelle excluante. Plutôt que des solutions pour maigrir, on pourrait proposer des solutions pour jouir, ce serait vraiment chou, et on laisserait les adeptes de pâtisserie profiterolles en toute tranquillité de leur vie sexuelle.
La chronique très subliminale, très subliminale de Maya Mazouret.
Est-ce que c'est normal que j'ai pensé à Eric Libio à ce moment-là, sur les jeux de mots?
Et si vous avez faim et si vous avez envie de sexe, eh bien c'est normal, hein, après cette chronique. Merci beaucoup Maya. On peut podcaster cette chronique sur l'appli et sur le site de France Inter. Et c'est ainsi que s'achève Grand Mais Vous Fasse Loisir. Merci beaucoup François Perret de nous avoir apporté une galette. Et on peut vous retrouver au comptoir Ritz Paris. Ça coûte un peu cher, mais bon, de temps en temps, on peut se faire plaisir, François Perret.
La qualité a forcément un prix.
Merci beaucoup Nathalie Hélal. Le goût de Paris, c'est publié chez Hachette Cuisine.
Merci à vous.
Demain,
merci.
J'aurai le plaisir de vous retrouver sur France 2 à 9h30 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron, Christophe André et André Manoukian. Lundi, comment appliquer les principes de santé préventive au quotidien. Tiens.